Mais quelle tristesse lorsque certains tournent le dos à la croix, choisissent de retourner à nouveau dans le monde et qu'ils ne peuvent plus chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Je vous invite à lire, tourne avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, le psaume 137. Psaume 137. Et nous allons voir que c'est une histoire tragique dans le psaume 137. Dieu avait donné aux Israélites un pays, une loi et un seigneur, et ils vont souiller le pays, ils vont désobéir à la loi et ils vont rejeter leur seigneur. Et les conséquences, eh bien, seront terribles pour les Israélites parce que les Babyloniens vont envahir le pays et ils vont les amener en captivité dans un pays étranger. Psaume 137. Nous lirons les versets 1 à 5, 1 à 6, dépendant de vos versions. Alors, ces gens qui étaient censés chanter pour la gloire de Dieu avaient perdu le goût de chanter. Ils avaient été emmenés en captivité et les versets 1 à 6 décrivent ce qu'ils vivaient. « Assis sur les bords des fleuves à Babylone, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes aux arbres de la rive. Et là, ceux qui nous avaient déportés, ceux qui nous avaient vaincus, nous demandaient des chants et nos persécuteurs exigeaient de nous de chanter. « Chantez-nous des cantiques joyeux de Sion, » disaient-ils. « Mais comment pourrions-nous chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? Ô Jérusalem, si jamais je t'oublie, et bien que ma main droite se paralyse, si je cesse de penser à toi, si je ne fais pas de toi, Jérusalem, le principal sujet de ma joie, et bien que ma langue se colle à mon palais. » Parole de Dieu pour son Église ce matin. Prions. Seigneur, ce matin, encore une fois, nous voulons nous confier en toi. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu nous as donné rendez-vous parce que tu as une parole à adresser pour chaque personne ici présente ce matin. Seigneur, nous voulons que tu, non seulement que tu nous parles, mais que s'il y a des choses, Seigneur, que nous devons changer, eh bien que tu les mettes en lumière et que tu nous donnes la force et le courage de dire oui à ces changements, afin que nous puissions rassembler davantage à la personne de Jésus. Seigneur, ta parole, elle est sainte, et Seigneur, c'est ce que nous voulons être sanctifiés par celle-ci. Que tu puisses nous bénir, et que tu puisses vraiment nous inonder de ton amour tout au long de ce message, et nous rappeler ce que nous sommes pour toi, et ce que nous représentons pour Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Et le peuple de Dieu dit, Amen. J'aimerais partager une histoire racontée par le pasteur Max Lucado sur Chippy, la perruche. Ses problèmes ont commencé quand le propriétaire de Chippy décida de nettoyer sa cage avec un aspirateur. Elle avait décidé d'enlever la fixation qui se trouvait à l'extrémité du tuyau. Vous savez, là, il y a le tuyau long, le tuyau de plastique, et des fois même un petit bout, là, très serré pour ramasser, hein, plus tassé. Et le propriétaire avait décidé d'enlever ce petit bout-là, donc il y avait juste le tuyau de plastique. Et de déposer ce tuyau de plastique, finalement, de l'aspirateur dans la cage. Mais le téléphone sonne et elle se retourne pour prendre l'appareil. Et à peine avait-elle dit bonjour que Chippy avait été aspiré. Elle laissa tomber immédiatement le téléphone, ferma l'aspirateur et ouvrit le sac. Et Chippy se trouvait au fond du sac. Toujours vivant, mais complètement étourdi, stupéfait. Il était complètement recouvert de poussière et de suie. Alors elle saisit immédiatement l'oiseau, courut à la salle de bain, ouvrit le robinet en laissant couler l'eau sur le corps de la pauvre perruche. Réalisant alors que Chippy était trempé et qu'il grelottait, elle fit ce que tout propriétaire compatissant aurait fait. Elle prit le séchoir à cheveux et souffla de l'air chaud sur la pauvre perruche. Quelques jours après le drame, le journaliste qui avait initialement écrit sur cet événement contacta la propriétaire de Chippy pour savoir comment allait l'oiseau. « Eh bien, répondit-elle, Chippy ne chante plus beaucoup. Il reste perché dans sa cage et il ne bouge plus. » Il n'est pas difficile de savoir pourquoi cette pauvre perruche avait été aspirée, lavée et séchée avec un séchoir à cheveux. Cela suffisait pour empêcher le cœur le plus motivé, le cœur d'une perruche le plus motivé à chanter. Il y a aussi quelque chose qui empêche beaucoup de chrétiens de chanter un cantique, frères et sœurs. Peut-être que c'est votre cas ce matin dans cette salle. Vous avez perdu le goût de chanter un cantique au Seigneur parce que, comme les Israélites, vous êtes maintenant maintenus captifs depuis un certain temps, non pas par les Babyloniens, mais par le monde, par la nature humaine et par le diable. Au point où vous avez perdu le goût de chanter ce cantique que vous aimiez tant autrefois chanter pour glorifier le bon nom de Jésus-Christ. Il y a un enseignement important pour nous dans ce psaume ce matin. Babylone représente le monde avec sa vanité, ses soucis et sa méchanceté. Et les Babyloniens avaient sorti les Israélites de Jérusalem, la ville sainte, pour les conduire dans une ville infernale. Une ville comme New York, une ville comme Chicago, une ville où il y a beaucoup de bruit et où il y a le péché abonde. Imaginez Jérusalem, qui représente le salut, qui représente les croyants, qui représente les cantiques chantés à Dieu. Et voilà que le peuple de Dieu avait été vaincu et amené captif dans un pays étranger, sur une terre étrangère. Ils avaient perdu toute envie de chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Avez-vous un cantique dans votre cœur ce matin? Vous n'avez pas besoin de répondre à haute voix, mais frères et sœurs, répondez à cette question. Y a-t-il un cantique dans votre cœur ce matin? Avez-vous une joie indescriptible pour le Seigneur au point où vous fredonnez dans votre cœur un air, une mélodie ou un cantique à la gloire de son nom ce matin? J'aimerais examiner avec vous rapidement quatre principes fondamentaux que nous retrouvons dans ce psaume. Et le premier principe, c'est ce que j'appelle la triste situation dans laquelle se trouve un chrétien qui est maintenu captif. Le mot-clé se trouve au verset 1. « Assis sur les bords des fleuves à Babylone, nous pleurions et nous souvenant de Sion. Ils avaient été amenés captifs, ils se trouvaient maintenant à Jérusalem et à Babylone et ils pleuraient. » Permettez-moi de vous dire quelque chose. Une des façons où vous pouvez dire si vous êtes dans le Seigneur, si vous êtes vraiment sauvé, si vous avez réellement été racheté, c'est de la façon suivante. Est-ce que vous éprouvez une grande tristesse dans votre cœur lorsque vous n'êtes pas en communion avec le Tout-Puissant? Car celui qui est vraiment sauvé ne peut être joyeux lorsqu'il a été pris en captivité par ce monde, c'est-à-dire muselé parce qu'il a succombé au péché ou qu'il vit dans le péché. Dieu vous aime trop pour vous permettre d'être joyeux et d'avoir en même temps en vous l'esprit du monde. Vous ne pouvez jamais jouir en même temps du péché et avoir la joie dans votre cœur. Il arrive que nous pensons que la personne la plus malheureuse dans ce monde, c'est celle qui n'est pas sauvée, mais ce n'est pas vrai. La personne la plus malheureuse dans ce monde, c'est celle qui est sauvée et qui n'est plus en communion avec Dieu. Elle est encore plus malheureuse que la personne qui n'est pas sauvée. J'ai dit que Dieu vous aime trop pour vous laisser continuer à vivre alors que vous êtes prisonnier du monde, de la chair et du diable. En fait, Dieu sera celui, écoutez bien ce que je vais dire, si vous lui appartenez, Dieu sera celui qui va provoquer un drame dans votre vie pour vous ramener à lui. Je vous invite à tourner dans Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25, nous lirons les versets 8 à 11. Pendant que vous tournez, je vous raconte le contexte. Le prophète Jérémie prophétisait que les enfants d'Israël seraient amenés captifs. Et regardez ce qu'il dit ici à partir des versets 8 à 11. Jérémie chapitre 25, 8 à 11. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, je vais envoyer chercher tous les peuples du nord, dit l'Éternel, et appeler mon serviteur Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Y a-t-il une erreur ici, frères et sœurs? Avez-vous bien lu la même chose que moi? Dieu appelle Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur. C'est ce qui est marqué dans le texte. Je ne sais pas quelle version vous avez. Il dit, j'ai appelé mon serviteur Nebuchadnezzar. Ça vaut de la peine de souligner ça dans votre Bible. Vous savez pourquoi? Parce que Nabuchodonosor, c'est un roi païen. Et Dieu l'appelle « mon serviteur ». Lisons la suite. « Je les ferai venir contre ce pays et sa population, contre toutes les nations voisines également. Je vous exterminerai, elle et vous, et je transformerai pour toujours ce pays en un champ de ruines devant lequel on s'exclamera et sifflera d'horreur. J'en ferai un objet de désolation et de moquerie. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Je ferai disparaître de chez vous les bruits de fête, c'est-à-dire les cris de réjouissance, les cris de joie et les chansons des jeunes mariés, le bruit des meules du moulin et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra un champ de ruines et pendant 70 ans, toutes ces nations seront soumises au roi de Babylone. Dieu dit ceci, écoutez, vous n'êtes pas disposé à entendre mon prophète, alors je vais aller chercher un roi qui est puissant, qui est méchant, pour dévaster votre pays. Ensuite, ce roi méchant et puissant va vous amener en captivité dans un pays étranger. Vous ne rirez plus, non seulement vous ne rirez plus, vous n'aurez plus aucune joie et vous n'aurez même plus le goût de chanter des cantiques. C'est ce que Dieu est en train de dire. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Parce qu'il ne les aimait pas. Au contraire, c'est parce qu'il les aimait que Dieu va agir ainsi. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Quand je vous ai dit que Dieu, celui, si vous appartenez vraiment au Seigneur, que Dieu provoquerait un drame dans votre vie pour vous ramener à lui si vous êtes éloigné de lui, je vais vous raconter une histoire et on va poursuivre. Il y avait une fois une famille dont les membres avaient été très actifs à l'Église ou dans l'Église dans le passé et qui étaient devenus rebelles. Au point, ils avaient perdu toute forme d'intérêt envers leur Église et qu'ils vivaient maintenant comme les gens du monde. Le pasteur et les anciens avaient parlé à plusieurs reprises au père et à ses trois fils, Jim, Sam et Jean, tous âgés dans la vingtaine, concernant leur comportement spirituel, leur froideur spirituelle, mais tous les efforts du pasteur, des anciens pour les ramener à Dieu ne donnèrent aucun résultat. Une journée, alors que les trois garçons étaient en train de travailler dans les champs, un serpent sonnette mordit Jean, qui tomba rapidement malade. Le père appela le médecin qui, après avoir examiné Jean, informa la famille qu'il se trouvait dans un état critique. Il avertit le père que la seule chose qui restait à faire pour espérer sauver la vie de Jean, c'était la prière. Le père appela immédiatement le pasteur et lui expliqua la condition dans laquelle se trouvait son fils. Il lui demanda de venir à la maison avec les anciens pour prier pour le rétablissement de Jean. Voici quelle fut la prière du pasteur. « Ô Seigneur, toi qui es juste et qui es rempli de sagesse, nous te remercions dans ta grande bonté d'avoir envoyé ce serpent sonnette mordre Jean afin de le ramener à la raison. Il a quitté l'Église depuis plusieurs années et il serait surprenant que pendant toutes ces années où il a vécu sans toi, il a pu ressentir une seule fois, et ce jusqu'à aujourd'hui, le besoin qu'on prie pour lui. Nous espérons que ce qui vient de lui arriver se révélera être une grande leçon pour lui et que cela le conduira à une véritable repentance. Maintenant, Seigneur, pourrais-tu envoyer un autre serpent pour mordre Sam et en envoyer un autre pour mordre Jim et un plus grand encore pour mordre ce père borné? Nous avons fait tout ce que nous avons pu pendant des années afin qu'il revienne à toi, mais sans aucun résultat. Il semble donc que tous nos efforts mis ensemble n'ont pas pu faire ce que ce serpent sonnette a réussi à faire à lui tout seul. Nous en concluons donc, Seigneur, que la seule bonne chose qui reste à faire, c'est de leur envoyer d'autres serpents sonnettes. Alors, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, envoie de plus gros serpents sonnettes, dont la morsure sera encore plus efficace, afin que tous les membres de cette famille reviennent à toi. Et il termine en disant Amen. Frères et sœurs, Nabuchodonosor était le serpent sonnette envoyé par Dieu pour ramener les enfants d'Israël vers leur Seigneur. Le Seigneur peut utiliser aussi comme serpent sonnette la maladie pour ramener les enfants, ses enfants qui se sont éloignés de lui. Dieu nous aime, et si nous lui appartenons vraiment car nous nous éloignons, Dieu va s'occuper de nous pour nous ramener. Et il peut envoyer des petits serpents sonnettes, des moyens serpents sonnettes ou des gros serpents sonnettes. Mais Dieu nous aime. Ce que Dieu veut, c'est qu'on réintègre sa maison pour recommencer à le louer et à l'adorer. Dieu leur avait donné une loi. Dieu leur avait donné un pays. Dieu leur avait donné un Seigneur à adorer. Dieu leur avait envoyé un prophète. Mais je le répète, ils souillèrent le pays. Ils désobéirent à la loi et ils rejetèrent leur Seigneur. Verset 1, maintenant, ils pleuraient. Je vous rappelle encore une fois que la personne la plus malheureuse sur terre n'est pas la personne qui n'est pas sauvée, mais plutôt la personne qui est sauvée, qui n'est plus en communion avec Dieu. Deuxièmement, j'aimerais ici vous faire remarquer non seulement sa triste situation, la triste situation du peuple, ou du chrétien, même du chrétien, qui n'est plus en communion avec le Seigneur. Verset 1, regardez encore une fois, verset 1, « Assis sur les bords des fleuves à Babylone, nous pleurions en nous souvenant de Sion. » Et le chrétien qui est déconnecté de son Seigneur, il pleure. Celui qui lui appartient vraiment, qui est né de nouveau, il pleure parce qu'il se souvient des bénédictions qu'il a reçues dans le passé par son Seigneur. Et ici, le peuple, il fait exactement, c'est exactement ce qu'il fait ici. Nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, qui est un autre mot pour exprimer la Terre Sainte, qui est un autre mot pour dire que c'est Jérusalem, que c'est l'endroit où se trouvait le Saint-Temple, l'endroit où on était en communion avec Dieu et l'endroit où on était purifié de ses péchés. Nous nous souvenons de Sion et nous pleurons. Il se rappelait ces centaines de cantiques qu'il chantait sur la colline de Sion. Et maintenant, tout ce qui leur restait, c'était un triste souvenir de leur passé. Oh, frères et sœurs, combien de gens sont venus dans cette église pendant des années? Combien de gens, eh bien, ont perdu leur communion avec leur Seigneur et qui sont maintenant, encore aujourd'hui, maintenus captifs par le monde, par le péché, par le diable, et qui ont besoin de nos prières, et qui ont peut-être besoin que Dieu leur envoie des serpents sonnettes s'ils leur appartiennent vraiment, pour qu'ils reviennent dans la maison du Seigneur pour louer, pour voir apparaître à nouveau ce cantique qu'ils chantaient pour la gloire de Dieu à l'époque où ils étaient dans la maison du Seigneur Jésus. Je vous pose maintenant une question très personnelle. Êtes-vous en communion avec Dieu ce matin? Ou êtes-vous en train de vous rappeler au moment où je vous parle de cette période dans votre vie où Dieu était tellement présent qu'il occupait continuellement vos pensées et que vous chantiez dans votre cœur des cantiques en son honneur? Je parle de cette période où le nom de Jésus était doux à vos oreilles et où vous pouviez dire le lendemain que le nom de Jésus était encore plus doux que la veille. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui, frères et sœurs? Et maintenant, tout ce qu'il vous reste, peut-être que c'est un triste souvenir de cette période, parce que vous n'êtes peut-être pas en communion avec lui ce matin. Je me rappelle des débuts de ma conversion. Je me faisais réveiller la nuit, j'étais dans la louange, et je louais le Seigneur. Je me réveillais en louant le Seigneur, et je me mettais au pied de mon lit pour continuer à louer le Seigneur et les cantiques qu'il me mettait à cœur. Louons le Seigneur. Est-ce qu'on a un cantique dans notre cœur? On dit souvent notre cantique préféré. Est-ce qu'on le fredonne régulièrement, parce qu'on a cette communion, on vit cette communion intime avec Jésus-Christ? Vous vous dites peut-être, mes pasteurs, je n'ai aucun souvenir d'une époque comme celle que vous venez de décrire, parce que je vis comme les gens du monde. Eh bien, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sauvés. Il y a des gens dans cette église qui se sont fait baptiser il y a 10, 15, 20 ans, et qui sont nés de nouveau l'année passée, il y a 2 ans. Le baptême, il ne sauve pas personne. Au pire, il nous lave, mais il ne sauve pas personne. Le changement de la nouvelle naissance, il est tellement radical que même si on est né dans l'Église, même si on n'est pas capable de coller une date, il y a un changement, il y a un bouleversement dans le cœur. Parce qu'on a pris conscience, même si on est né de famille chrétienne, qu'on est des pécheurs, qu'on est perdus, qu'on a besoin de se repentir comme les gens du monde, comme le pire pécheur du monde. Sinon, on est perdu. Entre vivre une religion et vivre une relation intime avec Jésus-Christ, la différence, elle n'est pas plus épaisse que cette feuille de papier. Et les gens qui passent par les eaux du baptême, qui rendent témoignage, ils sont sincères quand ils rendent témoignage. Mais à lire les Écritures, à méditer les Écritures, le Saint-Esprit fait un travail. Et à travers leur lecture, eh bien, et ils comprennent qu'ils, finalement, ont adopté une religion, mais que cette relation avec Jésus, elle n'est pas vivante. Le témoignage de Ruben, il m'a tellement béni que je lui ai demandé si c'est lui qui l'avait écrit. Ruben avait pris une décision pour le Seigneur très tôt dans un camp. Et il a confessé ici qu'il a réalisé. Suite à une décision que le conseil a prise par rapport à la musique, il a réalisé qu'il n'avait pas la victoire sur le péché. Qu'il demandait constamment pardon à Dieu pour le même péché, mais qu'il n'avait jamais la victoire sur le péché. Il a réalisé qu'il n'était pas converti, né de nouveau. Et son témoignage, il est magnifique pour un enfant qui est né dans l'Église. Et ici, frères et sœurs, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont jointes à l'Église, qui ont été baptisées, qui sont retournées dans le monde. Ces gens ne se souviennent de rien, ne peuvent pas se rappeler de rien, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Mais si vous êtes sauvés, si vous êtes nés de nouveau, si vous êtes en communion avec le Seigneur, si vous avez connu la joie du salut, goûté à la présence glorieuse du Seigneur, Jésus dans votre cœur, et que vous êtes, pardon, du Seigneur Jésus dans votre cœur, et que vous êtes maintenu captif, parce que vous avez succombé aux charmes de ce monde, vous êtes malheureux et vous vous souvenez avec tristesse de cette période où Jésus était tout pour vous. Et j'espère que ce matin, c'est encore ce que vous vivez, que Jésus est tout pour vous. Amen. Ouais. Voici maintenant la troisième idée que j'aimerais partager dans ce texte avec vous. La moquerie à laquelle fait face le chrétien qui a succombé au péché. Versets 2 et 3. Regardez les versets 2 et 3. Ils disent, « Nous avions suspendu nos harpes aux arbres de la rive. Et là, ceux qui avaient été déportés, ceux qui nous avaient vaincus, nous demandaient des chants et nos persécuteurs exigeaient de nous de chanter. « Chantez-nous des chants joyeux de Sion, » disait-il. Le oppresseur leur demandait de chanter les cantiques qu'ils chantaient lorsqu'ils habitaient Sion. Ils étaient en train, en fait, de se moquer d'eux et les ridiculisaient en leur demandant cela. Pourquoi est-ce qu'un païen demanderait à un chrétien de lui chanter un cantique du Seigneur? Pourquoi celui qui vous a persécuté, celui qui vous a déraciné de votre pays, vous demanderait de chanter un cantique du Seigneur? C'est pour rire de vous. Ils se moquent de vous. Frères et sœurs, le diable se réjouit de voir un enfant de Dieu qui vit dans le péché. Le diable se réjouit lorsqu'un scandale survient dans l'Église. Le diable se réjouit lorsqu'un enfant de Dieu baisse les bras et qu'il a détourné son regard de la croix pour le tourner vers le monde. C'est une grande victoire pour lui. Le monde nous déteste parce que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Frères et sœurs, est-ce que les gens du monde vous aiment? Ou quand vous rencontrez les gens du monde, vous les dérangez? Sans même ouvrir votre bouche, simplement par votre attitude et votre comportement. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait suite à la nouvelle naissance que vous avez eue lorsque vous m'avez rencontré, parce que vous n'êtes plus le même et vous ne pouvez plus être jamais le même. Et parce que maintenant vous appartenez aux choses d'en haut et non plus aux choses d'en bas, eh bien votre vision des choses, elle est censée être la même que moi, dit Jésus. Et à ce niveau-là, puisque le monde m'a déjà rejeté, le monde va vous rejeter. Puisque le monde m'a déjà haï, le monde va vous haïr. Et parce que le monde m'a déjà persécuté, le monde va vous persécuter. Et frères et sœurs, je vais être honnête avec vous ce matin, à travers la campagne qu'on a faite cette semaine. C'est vrai que ça prend beaucoup de sagesse, de discernement pour pouvoir témoigner aux gens. Mais quand on n'est pas jamais persécuté pour la parole, quand il n'y a pas des gens qui détournent notre dos parce qu'on est des chrétiens, on a le droit de se mettre à genoux et demander au Seigneur ce qui ne va pas dans notre vie. Parce qu'un chrétien né nouveau, ce n'est pas simplement celui qui se contente de venir à l'église le dimanche matin pour entendre des messages et chanter des louanges. C'est plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. C'est celui qui rend témoignage avec joie, avec la paix qu'il a reçue dans son cœur, de cette espérance que Jésus-Christ lui a transmise quand il l'a rencontré. Un chrétien qui a perdu sa communion, comme les Israélites qui avaient désobéi à Dieu, est incapable de transmettre cela aux autres. Parce que je l'ai dit, encore une fois, je le répète une troisième fois, c'est pas celui qui n'est pas sauvé qui est le plus malheureux dans le monde. C'est celui qui est sauvé qui a perdu sa communion avec le Seigneur. Parce que lui connaît la vérité. Et Pierre, il dit que s'il retourne dans le monde, sa situation elle est pire parce qu'il connaît la vérité. Pierre dit ça dans son épître, n'est-ce pas? Car ce monde qui vous déteste se réjouit lorsque vous succombez, que vous restez par terre. Si on pouvait simplement entrer dans ce monde spirituel, vous savez, on se parle, il y a des anges qui se promènent partout. Hein? C'est une autre dimension. Hein? Les élus, les échus, les déchus sont là, ils se promènent. Hein? Mais si on pouvait simplement voir qu'à chaque fois qu'on tombe et qu'on reste par terre, le diable, il fait sa danse, il fait la danse indienne autour de nous, puis il rit, puis il se moque. Hein? Il est content. Quoi. Il est content. Quoi. Il est content. Si on pouvait simplement visualiser ça, quoi. Il est donc content. Mais si on se détournait de nos péchés et qu'on se retournait vers le Seigneur, on verrait Jésus qui pleure. Qui pleure parce que son enfant est tombé. Et parce que son enfant a oublié que le Seigneur est toujours en train de lui tendre la main pour le relever, le remettre sur les rails, pour qu'il puisse continuer de devenir une lumière du monde dans ce monde perdu. Avez-vous déjà pensé jusqu'à quel point les Philistins se sont réjouis lorsqu'ils s'emparèrent de Samson et qu'ils lui crevèrent les yeux pour ensuite l'amener à Gaza? L'attacha avec des chaînes de bronze et l'obligea à moudre le blé dans une prison, faisant de lui, le texte nous dit, une bête de somme, riant et se moquant de lui. Juges chapitre 16. Oui, ils se sont moqués de Samson, ils ont crevé les deux yeux. Ils étaient contents. Ils ont coupé les cheveux, ils ont crevé les deux yeux, ils l'ont rendu inoffensif. Ouais. Ils ont simplement oublié que ses cheveux repousseraient. Et quand vous regardez la prière de repentance de Samson, extraordinaire. Samson qui s'était constamment appuyé sur ses propres forces. Il a dit au Seigneur, « Seigneur, une dernière fois, Seigneur, donne-moi la force de me venger de toi. » Et la Bible nous dit qu'il y a plus de 3000 personnes qui sont mortes, plus que tout ce que Samson avait tué de son vivant par ses propres forces. Oui, c'est vrai que le monde s'amuse quand les chrétiens tombent et qu'ils restent par terre. Chante-nous des cantiques joyeux, Sion. Chante-nous ces belles chansons que vous chantiez autrefois. Nous pouvons chanter à Babylone, mais nous ne pouvons jamais chanter pour Babylone. Ça, c'est toute la différence. Beaucoup de chanteurs soi-disant chrétiens aiment chanter le dimanche dans l'église pour ensuite chanter un peu plus tard dans les clubs de nuit. J'en connais. Chers amis, c'est jeter ses pelles au pourceau. Nous ne sommes pas appelés à divertir les gens, mais à les amener à Jésus-Christ. Chantez-nous des cantiques joyeux de Sion. Chantez-nous de belles chansons que vous chantiez dans le passé, disaient les Babyloniens. La moquerie du monde que doit affronter le chrétien qui a perdu sa communion avec le Seigneur et parce qu'il a succombé au péché. Quatrièmement, dernièrement, le chrétien qui a été neutralisé par le péché n'a aucun cantique à chanter. Le chrétien qui a été neutralisé par le péché n'a aucun cantique à chanter. Verset 4 dans le psaume ici. Regardez le verset 4. « Mais comment pourrions-nous chanter les cantiques du Seigneur sur une terre étrangère? » C'est un cantique du Seigneur et quel cantique est-ce? Frères et sœurs, c'est un cantique de délivrance. Comment faites-vous pour chanter un cantique de délivrance lorsque vous êtes neutralisé par le péché, que vous êtes toujours par l'ennemi, que vous êtes toujours par terre? Chaque chrétien devrait chanter ce cantique de délivrance. Regardez ce qui est écrit au psaume 32, verset 7. Tournez au psaume 32, verset 7 pour ceux qui ont leur Bible. Et pendant que vous tournez, je vais vous m'autoriser à enlever ma veste. Si. Il fait chaud en avant. Psaume 32, verset 7. Il dit, tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse. Hein? On sait que les psaumes, c'est des cantiques. Hein? Tu me préserves de la détresse, je crierai ma joie, car tu m'entoures de chants de délivrance. C'est-à-dire que ta protection, elle m'entoure. Il loue le Seigneur. Et là, le texte nous dit pause. Et qu'est-ce que ça veut dire, pause? Ça signifie, prends le temps de penser à ce que tu viens de chanter. Prenez le temps de penser à ce que vous venez de lire. Ça fait partie des cantiques de délivrance. Frères et sœurs, le premier cantique public que nous avons dans la Bible, c'est un cantique de délivrance. Lorsque les enfants d'Israël sortirent du pays d'Égypte pour être conduits vers le pays de Canaan, ils traversèrent la mer Rouge pour être livrés définitivement de l'emprise et de l'esclavage des Égyptiens. Et là, ils vont chanter un cantique de délivrance à l'Éternel. Tournez pas, mais prenez, si vous voulez prendre une note, c'est Exode chapitre 15. Et qu'est-ce qu'il dit? « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Ben moi, je peux vous dire une chose. À chaque nouvelle naissance, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur, on devrait répéter ces mêmes paroles-là. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est un miracle. Il n'y a pas un homme qui peut convertir quelqu'un. C'est un miracle. Je chanterai à l'Éternel, parce qu'il a manifesté sa gloire au milieu de son peuple. Il est sorti des ténèbres et a amené des gens à la lumière. Il est allé chercher des perdus pour en faire des sauvés. Il est allé chercher des païens pour en faire des chrétiens. Et là, on peut chanter pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Seigneur, je te chante parce que tu as manifesté non seulement ta présence dans notre Église, mais tu as manifesté aussi ta puissance dans notre Église. Et nous voulons te louer pour cela. Nous avons été témoins d'un miracle ce matin. Nous avons été témoins d'un miracle cette semaine. Et il continue ici, le peuple, hein? L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Seigneur, je te loue. J'étais perdu. Tu m'as sauvé. Et là, peut-être on va le dire moins fort, mais tu n'étais pas obligé de le faire, Seigneur. Je te loue parce que tu m'as sauvé et que tu n'étais pas obligé de le faire. Merci pour ta grâce. La louange au Seigneur. Frères et sœurs, avez-vous un cantique dans votre cœur ce matin? Pas un cantique, 4 vers, 4 strophes, 3 strophes. Une phrase. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Seigneur, tu vois cette personne qui n'arrête pas de m'embêter. Tu vois cette personne qui m'en veut. Tu vois cette personne qui salit ma réputation. Seigneur, tu es un vaillant guerrier. Occupe-toi-en. Occupe-toi-en, Seigneur. L'Éternel combattra pour vous. Et dans le Nouveau Testament, il répète, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse-moi récompenser à ma façon. » C'est ce que ça veut dire, hein? « Laisse-moi récompenser à ma façon ceux qui te font du mal à cause de mon nom. » À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si tu veux t'en mêler, pas de problème, tu m'enlèves l'autorité d'agir à ta place. Mais à moi, laisse-moi m'en occuper, laisse-moi récompenser tes ennemis. Tu vas voir comment je m'en occupe. C'est ce que ça veut dire, le verset. Hein? Mais si tu veux t'en occuper, tu risques non pas de régler le problème, mais d'aggraver le problème. Parce que tu vas être tout seul pour t'en sortir si ça aggrave. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et le peuple d'Israël, eh bien, il dit, l'Éternel, c'est son nom. C'est pas n'importe quel Dieu qui nous protège. C'est pas n'importe quel Dieu qui intervient. Exode, vous lirez ça, Exode chapitre 15, versets 1 à 19. Un très, très beau cantique. Si le Seigneur vous a délivré, vous ne pouvez pas faire autrement que de chanter un cantique à la gloire de son nom. Amen. Chers amis, si vous avez été rachetés, si vous avez été délivrés, il y aura un cantique que vous fredonnerez dans votre cœur, celui de l'âme qui a été libérée. Celui de l'âme qui a été libéré. J'étais esclave. Tu as fait de moi un homme libre. C'est ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous avons rencontré celui qui est la vérité. Amen. Oui, il est vivant. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, mais oh, bon, on va en venir. Je vais éviter d'aller trop vite. Avez-vous un cantique, frères et sœurs, je le répète, qui vous amène à fredonner, qui vous amène à fredonner pour la gloire de Dieu dans votre cœur ce matin? Si c'est le cas, ne laissez pas le diable vous voler ce cantique. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, il n'y a rien qui peut vous empêcher de chanter votre cantique. La tristesse ne peut pas vous empêcher de chanter votre cantique. J'allais dire, le pasteur, il déraille. Matthieu, chapitre 26, verset 30. Jésus a dû affronter un moment extrêmement difficile dans le jardin de Gethsémané. Il savait ce qui l'attendait dans les prochaines heures. En plus, il savait que ses disciples l'abandonneraient. Il est triste jusqu'à la mort. Mais Matthieu raconte qu'après avoir pris la Sainte Cène, Matthieu chapitre 26, 30, ils chantèrent des cantiques et ils se rendirent ensuite à la montagne des Oliviers. Ils chantèrent des cantiques. Vous allez me dire, c'est Jésus? Alors, ben, je vous demande de le regarder dans son 100% homme. Hein? Parce que si vous le regardez uniquement dans son 100% Dieu, tout le monde va vous dire que l'idée était pipée. Ben, il savait qu'il ressusciterait, il a fait semblant de souffrir. Les gens, ils vous en mettent. Hein? Hein, il vous tartine hein, à propos du Jésus 100% Dieu. Hein. Mais c'est dans son 100% homme qu'il a pris notre place. Hein. C'est dans son 100% homme qu'il a souffert. Hein. Et il a chanté des cantiques, sachant ce qu'il attendait. Deuxièmement, la souffrance ne peut pas vous empêcher de chanter votre cantique. Paul et Silas venaient d'être battus à coups de fouet. Ils avaient le dos lacéré, ils avaient les pieds fixés dans des blocs de bois. Ils étaient dans une cellule au fond en train de croupir. Et la Bible nous dit « au fond de la prison de Philippe », c'est-à-dire isolé des autres. Et il est écrit « vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. » Gloire à Dieu pour cela. Ouais. Comment peut-on être capable de chanter dans une prison en train de croupir? On ne parle pas de lantin ici, non? Il faut vraiment saisir les prisons romaines. Hein? Si on ne vous amenait pas de nourriture, vous creviez de faim. Hein? Ce n'est pas le gouvernement qui avait un budget pour vous payer de la bouffe et des vêtements. Hein? Si personne ne vous visitait pour vous donner des vêtements, et Paul en parle souvent, merci d'avoir pensé à moi le temps que j'étais en prison. Si vous n'aviez pas de nourriture, bien, vous mangez les rats qui se promenaient dans votre cellule. Et si vous n'aviez pas de vêtements, bien, vous viviez tout nu dans votre cellule. Hein? Le gouvernement ne dépensait pas un centime pour un prisonnier dans une prison romaine. Et Paul et Silas, ils ont les pieds dans des blocs de bois. Pourquoi les empêcher de courir? Les deux blocs sont enchaînés ensemble. Et ils chantent des louanges à la gloire de Dieu. La maladie ne peut pas vous empêcher de chanter votre cantique. Certains d'entre vous, vous passez par des moments difficiles. Je pense à ceux et celles qui souffrent d'une maladie incurable. Et à moins que Dieu fasse un miracle, il n'y a aucun espoir pour vous. Certains d'entre vous, vous avez des enfants capricieux. D'autres sont épuisés parce qu'ils travaillent et poursuivent leurs études en même temps. Rien de tout cela ne peut vous empêcher de chanter votre cantique. Né à Dublin, en Irlande, en 1820, Joseph Scriven connut une terrible épreuve au début de sa vie. Il se fiança à une jeune fille qui, dit-on, était très belle. Ils étaient profondément épris l'un de l'autre. Mais deux jours seulement avant la date du mariage, elle se noya accidentellement. Ce chagrin accompagna Joseph Scriven toute sa vie. La mort subite de sa fiancée eut des conséquences. Cette tragédie le conduisit à trouver Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur et l'ami divin qui lui apporta la consolation. Il consacra son temps par la suite à témoigner pour son sauveur. Il immigra au Canada à 25 ans. Là, il se fit connaître par sa générosité. Il donnait facilement à ceux qui avaient besoin. Ses voisins le surnommèrent l'homme qui scie du bois pour les pauvres et qui paye pour les malades qui n'ont pas d'argent pour se faire soigner. Ce terrible choc affectif avait provoqué chez lui une mélancolie qui dura toute sa vie et un comportement original. Quand il mourut, ses amis érigèrent un monument à sa mémoire. Sur ce monument est inscrit le texte intégral d'un poème qu'il a composé. Les circonstances dans lesquelles ce poème fut écrit devenaient un cantique fort bien connu et révèle le caractère tendre et compatissant de Joseph Scriven. Habitant toujours à Dublin, en Irlande, sa mère venait d'éprouver une grande peine et était sérieusement malade. Ne pouvant se déplacer pour aller la voir, il lui envoya une lettre de consolation et mit dans l'enveloppe ce poème qu'il avait écrit et qui devint plus tard un cantique, dont le titre est « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». C'est lui qui a composé ça. Les paroles de ce cantique traduisent bien le degré d'intimité et de communion d'une âme sensible qui a vécu une relation vivante avec Jésus-Christ, reconnu pour être un ami fidèle. Dans l'attente de la venue de Jésus-Christ, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à s'entretenir dans Éphésiens, à s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur, dit l'apôtre Paul, les louanges du Seigneur. Les chrétiens ne sont pas appelés à se rassembler pour critiquer et sur le dos des autres, pour déverser leur fiel sur le dos des autres. Ils sont là, ils doivent se rencontrer pour chanter des cantiques et des hymnes à la gloire de Jésus-Christ. Amen. C'est important. C'est important. Comment peut-on chanter après si on est 45 minutes dans une réunion ensemble, 45 minutes à critiquer les uns et les autres, puis réserver 15 minutes pour prier le Seigneur? Vous pensez qu'on peut s'attendre à ce que le Seigneur réponde aux prières? Mon œil, hein? On n'est pas là pour critiquer. Laissons ça au diable. Il est bon, lui, pour ça. Quand on se rend compte, hein, on doit voir notre prochain, on doit voir notre frère et soeur comme Jésus le voit. Avoir cette compassion, cet amour pour notre frère et notre soeur, même si on sait s'il parle en mal de nous. Si on ne fait pas ça, on ne sera jamais capable de prier ensemble, ni de prier les uns pour les autres. On ne sera jamais capable. Et si Jésus avait réfléchi comme on peut réfléchir, il n'aurait jamais dit du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand vous entendez quelqu'un qui parle en mal de vous, ben répétez la prière de Jésus. Remettez ce frère ou cette sœur entre les mains du Seigneur et dites au Seigneur, « Seigneur, je te prie pour mon frère parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je te prie pour ma sœur parce que de la façon qu'elle parle, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et je te prie pour mon frère parce que de la façon qu'il agit, il ne sait pas ce qu'il fait. Et je te demande de l'éclairer et de le ramener à toi. Parce que la critique, malgré ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un don spirituel. Ça reste du côté de la chair. Chers amis, qu'est-ce que j'essaie de dire ici? J'essaie de dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut vous voler votre cantique, qui peut vous empêcher de chanter pour la gloire de Dieu, et c'est le péché. Et il y a un seul péché qui peut vous empêcher de chanter votre cantique, et c'est votre péché. À moins d'être des beaux hypocrites, il nous est impossible de chanter un cantique à la gloire de Dieu si on est péché, qui nous torture et qu'on est esclave de ce péché. Parce que si on est sensible au Saint-Esprit, on entend le Seigneur Jésus qui dit « hypocrite, 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 hypocrite ». Moi, quand j'entends ça, je ne suis pas capable de chanter. Hein. Parce que ça me rappelle tout ce qu'il a dit aux pharisiens. Hein. « Vous paraissez beau à l'extérieur, mais nettoyez l'intérieur. » Parce que l'intérieur, quand tu ouvres la bouche, ça pue, ça sent très mauvais. C'est comme une poubelle, quand tu ouvres une poubelle. Hein. Ouais. Frères et sœurs, il y a une seule chose qui peut vous empêcher de louer le Seigneur et de chanter votre cantique préféré au Seigneur. C'est un péché, c'est votre péché. Le roi David était un grand serviteur de Dieu, mais il permet au péché d'entrer dans sa vie. Et dans le psaume 51, verset 14, quelle fut la prière qu'il adressa au Seigneur? « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » Le péché l'avait empêché pendant un certain temps de chanter des cantiques. Et David, il s'y connaissait en fait cantique. Hein? Quand vous lisez les psaumes, il s'y connaissait en fait cantique. Il n'était plus capable de rien chanter, parce qu'il essayait de couvrir son péché, lui. Il pensait que Dieu ne l'avait pas vu. David, il envoie Nathan. Hypocrite, 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 David, hypocrite. Et là, on voit, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut qui voit tout, qui entend tout, qui est capable de lire dans mon cœur ce que je ne suis même pas capable de voir. Délivre-moi de mon péché et ma langue célébrera ta miséricorde. » Le péché l'avait non seulement empêché de chanter des cantiques, mais le péché avait scellé sa bouche. Il n'était même plus capable de parler du Seigneur. Il n'était même plus capable de parler des bénédictions qu'il avait reçues du Seigneur dans le passé. Dans Jérémie 24, chapitres 6 et 7, Dieu fait cette promesse. « Je ne veux pas les détruire, mais les rétablir. » C'est important, ces paroles, frères et sœurs. Quand on tombe, le Seigneur n'est pas là pour nous écraser. Il dit, c'est pas moi qui le dis, Jérémie, chapitre 24, versets 6 et 7. « Je ne veux pas les détruire, je veux les rétablir. Je ne veux pas les déraciner, mais les replanter. » Il parle de son peuple, mais c'est la même chose pour le chrétien qui est tombé. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils soient capables de reconnaître que je suis l'Éternel. Écoutez bien maintenant la suite. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi. Et là, il y a trois mots, de tout leur cœur. Voilà ce que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui si vous vous êtes éloigné de lui et s'il est absent de votre vie depuis un certain temps. Dieu veut que vous reveniez à lui. Dieu veut que vous reveniez à la maison. Et lorsque vous faites ce pas, vous serez en mesure de chanter à nouveau votre cantique préféré pour la gloire de son nom. Voici la façon dont Isaïe l'exprime. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques et que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur qui aura pitié d'eux. Qu'ils reviennent à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. En bon français, c'est ça, hein, se lasser. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable! Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Quelle bonne nouvelle! Nous, on peut être découragés parce que ça fait plusieurs reprises qu'on tombe dans le même péché, mais on devrait se rappeler, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et ne pas écouter la voix du diable qui dit, arrête de confesser ton péché, ça fait assez longtemps que Dieu l'entend, qu'il ne veut même plus te pardonner. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Tout péché. On ne devrait jamais, jamais souffrir d'un sentiment de culpabilité. Hein? Quand on entend une parole comme ça, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu vous aime d'un amour éternel. Wow! Extraordinaire! Et le diable, il nous rabaisse. Là. Si on quitte nos yeux de la croix, il nous rabaisse. Hein? Dieu t'aime moins que l'autre. Dieu t'aime moins qu'un tel. Dieu t'aime moins qu'une telle. Dieu va te pardonner à moitié. Je ne suis pas convaincu que Dieu va te pardonner. Vous voulez revenir à la maison? Venez, dit le Seigneur. Venez. Il suffit d'abandonner vos mauvaises voies, vos mauvaises pensées et revenir au Seigneur. Et quand vous faites cela, Isaïe dit au verset 12, c'est dans la joie que vous quitterez Babylone et c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris de joie et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Lorsque vous revenez à Dieu, la nature entière chante et chantera vous et vous chanterez vous aussi. Maintenant, si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez pas avoir de cantique dans votre cœur. Ou vous pouvez avoir, vous pouvez chanter un cantique à Babylone, mais pas un cantique du Seigneur, parce que c'est un cantique de délivrance. Si vous n'êtes pas sauvé, vous existez, mais vous n'avez pas la vie, parce que la vie se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais si vous savez cela, et que vous restez froid et indifférent, parce que vous êtes maintenu captif par le monde, la chair et le diable, alors vous êtes insensé, excusez-moi l'expression, mais vous êtes insensé ce matin de demeurer dans cette voie. Vous vous trouvez dans une triste situation parce que vous gardez et alimentez le triste souvenir de ce que vous avez fait. Et vous êtes non seulement l'objet de moquerie par les gens du monde, mais il n'y a plus aucun cantique que vous pouvez chanter dans votre cœur. C'est le temps de revenir à la maison. C'est le temps de couper court avec le monde ce matin, si c'est votre cas. Et c'est le temps de prendre une décision, la bonne décision. Seigneur, je veux t'appartenir entièrement. Fais un ménage en ma vie, Seigneur. Tu sais ce qui m'empêche de pouvoir chanter ce cantique que je chante avec joie il y a un certain temps. Seigneur, tu vois mon péché, mon péché. Ce n'est pas le péché de mon frère qui m'empêche de chanter, c'est mon péché qui m'empêche de chanter pour la gloire de ton nom. Seigneur, fais un nettoyage, je te le confesse ce péché. Ô Dieu, Dieu de mon salut, merci de m'avoir délivré de mon péché. Comme David. Je reviens une fois pour toutes à la maison de tout mon cœur, que ce soit votre prière si c'est le cas ce matin. Rappelez-vous que si vous avez été amené captif, si vous avez été muselé parce que vous avez succombé au péché, Dieu vous aime trop pour vous laisser vivre dans le monde et ressentir en même temps de la joie. Dieu peut vous envoyer un bon gros vieux serpent sonnette pour vous rappeler ce que vous devez faire. Amen. Dieu est bon. On va prendre un temps pour prier ce matin. Prions. Je vous invite à courber la tête dans un esprit de prière. Et pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont baissés, si vous n'êtes pas sauvé, permettez-moi de vous amener à prendre une décision à travers une prière dans laquelle vous demandez à Jésus-Christ de venir dans votre cœur et de vous sauver. Croyez que Jésus a payé le prix exigé par la loi pour votre péché en versant son sang pour vous. Croyez que Dieu l'a ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, qui peut vous sauver et il vous sauvera. Si vous vous confiez en lui. Et puis faites la prière suivante. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, ou si vous n'avez pas la certitude que vous êtes sauvé. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu. J'ai besoin d'être sauvé. Et je veux être sauvé. Jésus, tu es mort pour moi. Tu as promis de me sauver. Et si je me confie en toi. Seigneur Jésus, je veux te faire confiance ce matin. Viens prendre la place qui te revient dans mon cœur. Pardonne-moi maintenant mon péché et purifie-moi. Je te reçois comme mon Seigneur et je me donne entièrement à toi dès maintenant. Merci de m'avoir sauvé. Seigneur Jésus, je le proclame par la foi. Merci pour ton salut. Je ne demande pas de ressentir quelque chose. Je ne recherche pas un signe. Je m'appuie uniquement sur ta parole. Accorde-moi non seulement le courage de montrer publiquement que je t'appartiens, mais de ne jamais avoir honte de toi. Merci Jésus. Et ceux d'entre vous qui êtes déjà sauvés, mais dont le cœur s'est refroidi, qui êtes maintenant indifférents aux choses de Dieu, Vous êtes dans cet état parce que vous avez été amené et maintenu captif par le monde, la chair et par le diable, parce que vous avez succombé au péché et vous avez perdu votre cantique. Voulez-vous maintenant renoncer au monde, à la chair ou le diable, si c'est votre cas ce matin? Êtes-vous prêt à vivre, à avouer que vous viviez sans Dieu et que maintenant vous voulez revenir à la maison? Faites cette prière dans votre cœur si c'est votre cas ce matin. Seigneur, je confesse avoir vécu pendant un certain temps sans toi, en suivant ma propre voie. Comme David, je reviens à la maison, parce que je veux vivre comme Jésus le demande à partir de maintenant. Je te donne mon cœur afin que tu me rendes mon cantique. Seigneur, je prie que plusieurs feront le même pas que je fais ce matin, si c'est le cas. Et c'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Et vite à vous lever, s'il y a des gens qui ont pris une décision pour le Seigneur Jésus pour la première fois dans leur vie, vous pouvez venir me voir après la culte et je vous donnerai une Bible et de certaines indications pour entreprendre cette vie chrétienne avec le Seigneur Jésus. Et pour les autres, eh bien, si vous voulez venir me voir et me partager que vous avez renoncé, que vous avez rétabli votre communion avec le Seigneur, eh bien, si vous n'êtes pas gêné, vous venez me trouver et je vous mettrai sur ma liste de prières pour prier pour vous. Je vous invite à chanter le cantique numéro 78 sur les ailes de la foi, ce cantique écrit et composé par Joseph Scriven il y a plusieurs années. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. On va chanter selon l'ancienne version.